Honoré de Balzac, César Birotteau. Je viens d'aller recevoir le testament d'un grand personnage qui n'a pas 8 jours à vivre, dit-il de l'air le plus naturel du monde. Mais l'on m'a traité comme un médecin de village, on m'a envoyé chercher en voiture et je reviens à pied. Ces paroles dissipèrent un léger nuage de défiance qui avait obscurci le front du parfumeur et que Roguin entrevit. Aussi le notaire se garda-t-il bien de parler de l'affaire des terrains le premier, car il voulait porter le dernier coup à sa victime. « Après les testaments, les contrats de mariage, dit Birotteau, voilà la vie. Et à propos de cela, quand épousons-nous la Madeleine ? Hé hé, papa Roguin, ajouta-t-il en lui tapant sur le ventre. Entre hommes, la prétention des plus chastes bourgeois est de paraître égrillard. Mais si ce n'est pas aujourd'hui, répondit le notaire d'un air diplomatique, ce ne sera jamais. Nous craignons que l'affaire ne s'ébruite. Je suis déjà vivement pressé par 2 de mes plus riches clients qui veulent se mettre dans cette spéculation. Aussi, est-ce à prendre ou à laisser? Passé midi, je dresserai les actes et vous n'aurez la faculté d'y être que jusqu'à 1 heure. Adieu. Je vais précisément lire les minutes que Xandro a dû me dégrossir pendant cette nuit. Eh bien, c'est fait, vous avez ma parole, dit Birotteau en courant après le notaire et lui frappant dans la main. Prenez les 100 000 francs qui devaient servir à la dot de ma fille. Bien, dit Roguin en s'éloignant. Pendant l'instant que Birotteau mit à revenir auprès du petit Popinot, il éprouva dans ses entrailles une chaleur violente, son diaphragme se contracta, ses oreilles tintèrent. Qu'avez-vous, monsieur ? Lui demanda le commis en voyant à son maître le visage pâle. Ah, mon garçon, je viens de conclure par un seul mot une grande affaire. Personne n'est maître de ses émotions en pareil cas. D'ailleurs, tu n'y es pas étranger. Aussi t'ai-je amené ici pour y causer plus à l'aise. Personne ne nous écoutera. Ta tante est gênée. À quoi donc a-t-elle perdu son argent ? Dis-le-moi. Monsieur, mon oncle et ma tante avaient leur fonds chez monsieur de Nucingen. Ils ont été forcés de prendre en remboursement des actions dans les mines de Wurtchin, qui ne donnent pas encore de dividendes, et il est difficile à leur âge de vivre d'espérance. Mais avec quoi vivent-ils ? Ils m'ont fait le plaisir d'accepter mes appointements. « Bien, bien, Anselme, dit le parfumeur, en laissant voir une larme qui roula dans ses yeux. Tu es digne de l'attachement que je te porte. Aussi vas-tu recevoir une haute récompense de ton application à mes affaires. » En disant ces paroles, le négociant grandissait autant à ses propres yeux qu'à ceux de Popinot. Il y mit cette bourgeoise et naïve emphase, expression de sa supériorité postiche. « Quoi ? Vous auriez deviné ma passion pour... Pour qui ?» dit le parfumeur. « Pour mademoiselle Césarine ?»« Ah, garçon, tu es bien hardi !» s'écria Birotteau. « Mais garde bien ton secret, je te promets de l'oublier, et tu sortiras de chez moi demain. Je ne t'en veux pas. À ta place, diable, diable, j'en aurais fait tout autant. Elle est si belle !»« Ah, monsieur !» dit le commis qui sentait sa chemise mouillée tant il se tressuait. « Mon garçon, cette affaire n'est pas l'affaire d'un jour. Césarine est sa maîtresse et sa mère a ses idées. Ainsi rentre en toi-même, essuie tes yeux, tiens ton cœur en bride et n'en parlons jamais. Je ne rougirai pas de t'avoir pour gendre. Neveu de monsieur Popinot, juge au tribunal de première instance, neveu des Ragons, tu as le droit de faire ton chemin tout comme un autre. Mais il y a des mais, des cars, des si. Quel diable de chien me lâches-tu là dans une conversation d'affaires ? Tiens. Assieds-toi sur cette chaise et que l'amoureux fasse place au commis. Popinot, es-tu homme de cœur ? Dit-il en regardant son commis. Te sens-tu le courage de lutter avec plus fort que toi, de te battre corps à corps ? Oui, monsieur. De soutenir un combat long, dangereux. De quoi s'agit-il ? De couler l'huile de Macassar, dit Birotteau, se dressant en pied comme un héros de Plutarque. Ne nous abusons pas. L'ennemi est fort, bien campé, redoutable. L'huile de Macassar a été rondement menée. La conception est habile. Les fioles carrées ont l'originalité de la forme. Pour mon projet, j'ai pensé à faire les nôtres triangulaires. Mais je préférerais, après de mûres réflexions, de petites bouteilles de verre mince clissées en roseau. Elles auraient un air mystérieux, et le consommateur aime tout ce qui l'intrigue. C'est coûteux, dit Popinot. Il faudrait tout établir au meilleur marché possible afin de faire de fortes remises aux détaillants. Bien, mon garçon, voilà les vrais principes. Songe-y bien, l'huile de Macassar se défendra. Elle est spécieuse, elle a un nom séduisant, on la présente comme une importation étrangère, et nous aurons le malheur d'être de notre pays. Voyons, Popinot, te sens-tu de force à tuer Macassar ? D'abord, tu l'emporteras dans les expéditions d'outre-mer. Il paraît que Macassar est réellement aux Indes. Il est plus naturel alors d'envoyer le produit français aux Indiens que de leur renvoyer ce qu'ils sont censés nous fournir. À toi les pacotilleurs. Mais il faut lutter à l'étranger, lutter dans les départements. Or, l'huile de Macassar a été bien affichée. Il ne faut pas se déguiser sa puissance. Elle est poussée. Le public la connaît. Je la coulerai, s'écria Popino, l'œil en feu. Avec quoi, lui dit Birotteau. Voilà bien l'ardeur des jeunes gens. Écoute-moi donc jusqu'au bout. Anselme se mit comme un soldat au port d'armes devant un maréchal de France. J'ai inventé, Popino, une huile pour exciter la pousse des cheveux, raviver le cuir chevelu, maintenir la couleur des chevelures mâles et femelles. Cette essence n'aura pas moins de succès que ma pâte et mon eau. Mais je ne veux pas exploiter ce secret par moi-même. Je pense à me retirer du commerce. C'est toi, mon enfant, qui lancera mon huile comagène. Du mot « coma », mot latin qui signifie « cheveux », comme me l'a dit M. Alibert, médecin du roi. Ce mot se trouve dans la tragédie de Bérénice, où Racine a mis un roi de Comagène, amant de cette belle reine si célèbre par sa chevelure, lequel amant, sans doute par flatterie, a donné ce nom à son royaume. Comme ces grands génies ont de l'esprit, ils descendent aux plus petits détails. Le petit Popino garda son sérieux en écoutant cette parenthèse saugrenue, évidemment dite pour lui qui avait de l'instruction. Anselme, j'ai jeté les yeux sur toi pour fonder une maison de commerce de haute droguerie, rue des Lombards, dit Birotteau. Je serai ton associé secret, je te baillerai les premiers fonds. Après l'huile comagène, nous essaierons de l'essence de vanille, de l'esprit de menthe. Enfin, nous aborderons la droguerie en la révolutionnant, en vendant ses produits concentrés au lieu de les vendre en nature. Ambitieux jeune homme, es-tu content ? Anselme ne pouvait répondre, tant il était oppressé, mais ses yeux pleins de larmes répondaient pour lui. Cette offre lui semblait dictée par une indulgente paternité qui lui disait « Mérite Césarine en devenant riche et considérée. » « Monsieur, répondit-il enfin, en prenant l'émotion de Birotteau pour de l'étonnement, « moi aussi je réussirai. » « Voilà comme j'étais, s'écria le parfumeur, je n'ai pas dit un autre mot. Si tu n'as pas ma fille, tu auras toujours une fortune. Eh bien, garçon, qu'est-ce qui te prend ? Laissez-moi espérer qu'en acquérant l'une, j'obtiendrai l'autre. Je ne puis t'empêcher d'espérer, mon ami, dit Birotteau, touché par le ton d'Anselme. Eh bien, monsieur, puis-je dès aujourd'hui prendre mes mesures pour trouver une boutique afin de commencer au plus tôt ? Oui, mon enfant, demain nous irons nous enfermer tous deux à la fabrique. Avant d'aller dans le quartier de la rue des Lombards, tu passeras chez Livingston pour savoir si ma presse hydraulique pourra fonctionner demain. Ce soir, nous irons à l'heure du dîner chez l'illustre et bon monsieur Vauquelin pour le consulter. Ce savant s'est occupé tout récemment de la composition des cheveux. Il a recherché quelle était leur substance colorante, d'où elle provenait, quelle était la contexture des cheveux. Tout est là, Popino. Tu sauras mon secret, et il ne s'agira plus que de l'exploiter avec intelligence. Avant d'aller chez Livingstone, passe chez Pierry Bénard. Mon enfant, le désintéressement de monsieur Vauquelin est une des grandes douleurs de ma vie. Il est impossible de lui faire rien accepter. Heureusement, j'ai su par Chiffreville qu'il voulait une Vierge de Dresde, gravée par un certain Müller, et après 2 ans de correspondance en Allemagne, Bénard a fini par la trouver sur papier de Chine, avant la lettre. Elle coûte 1500 francs, mon garçon. Aujourd'hui, notre bienfaiteur la verra dans son antichambre en nous reconduisant, car elle doit être encadrée, tu t'en assureras. Nous nous rappellerons ainsi à son souvenir, ma femme et moi, car, quant à la reconnaissance, voilà 16 ans que nous prions Dieu tous les jours pour lui. Moi, je ne l'oublierai jamais. Mais, Popino, enfoncé dans la science, les savants oublient tout, femmes, amis, obligés. Nous autres, notre peu d'intelligence nous permet au moins d'avoir le cœur chaud. Ça console de ne pas être un grand homme. Ces messieurs de l'Institut, c'est tout cerveau, tu verras. Vous ne les rencontrez jamais dans une église. Monsieur Vauquelin est toujours dans son cabinet ou dans son laboratoire. J'aime à croire qu'il pense à Dieu en analysant ses ouvrages. Voilà qui est entendu. Je te ferai les fonds, je te laisserai la possession de mon secret, nous serons de moitié sans qu'il soit besoin d'actes. Vienne le succès, nous arrangerons nos flûtes. Cours, mon garçon, moi, je vais à mes affaires. Écoute donc, Popino, je donnerai dans 20 jours un grand bal. Fais-toi faire un habit, viens-y comme un commerçant déjà calé. Ce dernier trait de bonté émut tellement Popino qu'il saisit la grosse main de César et la baisa. Le bonhomme avait flatté l'amoureux par cette confidence, et les gens épris sont capables de tout. « Pauvre garçon, dit Birotteau, en le voyant courir à travers les Tuileries, si Césarine l'aimait. Mais il est boiteux, il a les cheveux de la couleur d'un bassin, et les jeunes filles sont si singulières. Je ne crois guère que Césarine... Et puis sa mère veut la voir la femme d'un notaire. Alexandre Crottat la fera riche. La richesse rend tout supportable, tandis qu'il n'y a pas de bonheur qui ne succombe à la misère. Enfin, j'ai résolu de laisser ma fille maîtresse d'elle-même jusqu'à concurrence d'une folie. Le voisin de Birotteau était un petit marchand de parapluies, d'ombrelles et de cannes, nommé Cayron, languedocien, qui faisait de mauvaises affaires et que Birotteau avait obligé déjà plusieurs fois. Cayron ne demandait pas mieux que de se restreindre à sa boutique et de céder au riche parfumeur les deux pièces du premier étage en diminuant d'autant son bail. « Eh bien, voisin, lui dit familièrement Birotteau en entrant chez le marchand de parapluies, ma femme consent à l'augmentation de notre local. Si vous voulez, nous irons chez Monsieur Molineux à 11 heures. » « Mon cher Monsieur Birotteau, reprit le marchand de parapluies. Je ne vous ai jamais rien demandé pour cette session, mais vous savez qu'un bon commerçant doit faire argent de tout. « Diable, diable !» répondit le parfumeur. « Je n'ai pas des mille et des cents. J'ignore si mon architecte que j'attends trouvera la chose praticable. Avant de conclure, m'a-t-il dit, sachons si vos planchers sont de niveau. Puis il faut que M. Molineux consente à laisser percer le mur. Et le mur est-il mitoyen ? Enfin, j'ai à faire retourner chez moi l'escalier pour changer le palier afin d'établir le plain-pied. Voilà bien des frais, je ne veux pas me ruiner. « Oh, monsieur, dit le méridional, quand vous serez ruiné, le soleil sera venu coucher avec la terre et ils auront fait des petits. » Birotteau se caressa le menton en se soulevant sur la pointe des pieds et retombant sur ses talons. « D'ailleurs, reprit Cayron, je ne vous demande pas autre chose que de me prendre ces valeurs-là. » Et il lui présenta un petit bordereau de 5 000 francs, composé de 16 billets. « Ah !» dit le parfumeur en feuilletant les effets. « De petites broches, 2 mois, 3 mois. « Prenez-les-moi 6% seulement, » dit le marchand d'un air humble. « Est-ce que je fais l'usure ?» dit le parfumeur d'un air de reproche. « Mon Dieu, monsieur, je suis allé chez votre ancien commis, Du Tillet. Il n'en voulait à aucun prix, sans doute pour savoir ce que je consentirais à perdre. » « Je ne connais pas ces signatures-là, » dit le parfumeur. « Mais nous avons de si drôles de noms dans les cannes et les parapluies, c'est des colporteurs. »« Eh bien, je ne dis pas que je prenne tout, mais je m'arrangerai toujours des plus courts. »« Pour 1 000 francs qui se trouvent à 4 mois, ne me laissez pas courir après les sansus qui nous tirent le plus clair de nos bénéfices. Faites-moi tout, monsieur. J'ai si peu recours à l'escompte, je n'ai nul crédit. Voilà ce qui nous tue, nous autres petits détaillants. » « Allons, j'accepte vos broches, Célestin fera le compte. À 11 heures, soyez prêts. Voici mon architecte, Monsieur Grindot, » ajouta le parfumeur, en voyant venir le jeune homme avec lequel il avait pris la veille rendez-vous chez Monsieur de la Billardière. « Contre la coutume des gens de talent, vous êtes exact, monsieur, » lui dit César, en déployant ses grâces commerciales les plus distinguées. Si l'exactitude, suivant un mot du roi, homme d'esprit autant que grand politique, est la politesse des rois, elle est aussi la fortune des négociants. Le temps est de l'or, surtout pour vous, artistes. L'architecture est la réunion de tous les arts. » Je me suis laissé dire cela. Ne passons point par la boutique, ajouta-t-il, en montrant la fausse porte cochère de sa maison. 4 ans auparavant, M. Grindot avait remporté le grand prix d'architecture. Il revenait de Rome après un séjour de 3 ans aux frais de l'État. En Italie, le jeune artiste songeait à l'art. À Paris, il songeait à la fortune. Le gouvernement peut seul donner les millions nécessaires à un architecte pour édifier sa gloire. En revenant de Rome, il est si naturel de se croire Fontaine ou Percier que tout architecte ambitieux incline au ministérialisme. Le pensionnaire libéral, devenu royaliste, tâchait donc de se faire protéger par les gens influents. Quand un grand prix se conduit ainsi, ses camarades l'appellent un intrigant. Le jeune architecte avait 2 partis à prendre, servir le parfumeur ou le mettre à contribution. Mais Birotteau l'adjoint, Birotteau le futur possesseur par moitié des terrains de la Madeleine, autour de laquelle tôt ou tard il se bâtirait un beau quartier, était un homme aménagé. Grindot immola donc le gain présent aux bénéfices à venir. Il écouta patiemment les plans, les redites, les idées d'un de ces bourgeois, cible constante des traits, des plaisanteries de l'artiste, éternel objet de ses mépris, et suivit le parfumeur en hochant la tête pour saluer ses idées. Quand le parfumeur eut bien tout expliqué, le jeune architecte essaya de lui résumer à lui-même son plan. « Vous avez à vous trois croisées de face sur la rue, plus la croisée perdue sur l'escalier et prise par le palier. Vous ajoutez à ces quatre croisées les deux qui sont de niveau dans la maison voisine, en retournant l'escalier pour aller de plein pied dans tout l'appartement du côté de la rue. « Vous m'avez parfaitement compris !» dit le parfumeur étonné. Pour réaliser votre plan, il faut éclairer par en haut le nouvel escalier et ménager une loge de portier sous le socle. Un socle ? Oui, c'est la partie sur laquelle reposera « Je comprends, monsieur ». Quant à votre appartement, laissez-moi carte blanche pour le distribuer et le décorer. Je veux le rendre digne. Digne ! Vous avez dit le mot, monsieur. Quel temps me donnez-vous pour opérer ce changement de décor ? 20 jours. Quelle somme voulez-vous jeter à la tête des ouvriers ? Dit Grindot. Mais à quelle somme pourront monter ces réparations ? Un architecte chiffre une construction neuve à 1 centime près, répondit le jeune homme. Mais comme je ne sais pas ce que c'est que d'enfiler un bourgeois... Pardon, monsieur, le mot m'est échappé. Je dois vous prévenir qu'il est impossible de chiffrer des réparations et des rhabillages. À peine en 8 jours arriverai-je à faire un devis approximatif. Accordez-moi votre confiance, vous aurez un charmant escalier, éclairé par le haut, orné d'un joli vestibule sur la rue, et sous le socle, toujours ce socle. Ne vous en inquiétez pas, je trouverai la place d'une petite loge de portier. Vos appartements seront étudiés, restaurés, avec amour. Oui, monsieur, je vois l'art, et non la fortune. Avant tout, ne dois-je pas faire parler de moi pour arriver? Selon moi, le meilleur moyen est de ne pas tripoter avec les fournisseurs, de réaliser de beaux effets à bon marché. Avec de pareilles idées, jeune homme, dit Birotteau d'un ton protecteur, vous réussirez. Ainsi, reprit Grindot, traitez directement avec vos maçons, peintres, serruriers, charpentiers, menuisiers. Moi, je me charge de régler leur mémoire. Accordez-moi seulement 2 000 francs d'honoraires, ce sera de l'argent bien placé. Laissez-moi mettre des lieux demain à midi et indiquez-moi vos ouvriers. À quoi peut se monter la dépense, à vue de nez ? Dit Birotteau. 10 à 12 000 francs, dit Grindot. Mais je ne compte pas le mobilier, car vous le renouvelez sans doute. Vous me donnerez l'adresse de votre tapissier. Je dois m'entendre avec lui pour assortir les couleurs, afin d'arriver à un ensemble de bon goût. Monsieur Brachon, rue Saint-Antoine, à mes ordres, dit le parfumeur, en prenant un air ducal. L'architecte écrivit l'adresse sur un de ses petits souvenirs qui viennent toujours d'une jolie femme. Allons, dit Birotteau, je me fie à vous, monsieur. Seulement, attendez que j'ai arrangé la cession du bail des deux chambres voisines et obtenu la permission d'ouvrir le mur. Prévenez-moi par un billet ce soir, dit l'architecte. Je dois passer la nuit à faire mes plans, et nous préférons encore travailler pour les bourgeois à travailler pour le roi de Prusse, c'est-à-dire pour nous. Je vais toujours prendre les mesures, les hauteurs, la dimension des tableaux, la portée des fenêtres. Nous arriverons au jour dit, reprit Birotteau. Sans quoi, rien. Il le faudra bien, dit l'architecte. Les ouvriers passeront les nuits, on emploiera des procédés pour sécher les peintures, mais ne vous laissez pas enfoncer par les entrepreneurs, demandez-leur toujours le prix d'avance et constatez vos conventions. Paris est le seul endroit du monde où l'on puisse frapper de pareils coups de baguette, dit Birotteau en se laissant aller à un geste asiatique digne des 1001 nuits. Vous me ferez l'honneur de venir à mon bal, monsieur. Les hommes à talent n'ont pas tous le dédain dont on accable le commerce. Et vous y verrez sans doute un savant de premier ordre, monsieur Vauquelin, de l'Institut. Puis monsieur de la Billardière, monsieur le comte de Fontaine, monsieur le bas juge et le président du tribunal de commerce, des magistrats, monsieur le comte de Granville de la Cour royale et monsieur Popineau du tribunal de première instance, monsieur Camusot du tribunal de commerce et monsieur Cardot, son beau-père. Enfin, peut-être monsieur le duc de Lenoncourt, premier gentilhomme de la chambre du roi. Je réunis quelques amis autant pour célébrer la délivrance du territoire que pour fêter ma promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur. Grindot fit un geste singulier. Peut-être me suis-je rendu digne de cette insigne et royale faveur en siégeant au tribunal consulaire et en combattant pour les Bourbons sur les marches de Saint-Roch aux 13 Vendémiaires, où je fus blessé par Napoléon. Ces titres. Constance, vêtue en matin, sortit de la chambre à coucher de Césarine où elle s'était habillée. Son premier coup d'œil arrêta net la verve de son mari, qui cherchait à formuler une phrase normale pour apprendre avec modestie ses grandeurs au prochain. Tiens, Mimi, voici monsieur de Grindot, jeune homme distingué d'autre part et possesseur d'un grand talent. Monsieur est l'architecte que nous a recommandé Monsieur Labillardière pour diriger nos petits travaux ici. » Le parfumeur se cacha de sa femme pour faire un signe à l'architecte en mettant un doigt sur ses lèvres au mot « petit » et l'artiste comprit. « Constance, monsieur va prendre les mesures, les hauteurs. Laisse-le faire, ma bonne, » dit Birotteau qui s'esquiva dans la rue. « Cela sera-t-il bien cher ?» dit Constance à l'architecte. « Non, madame, 6 000 francs à vue de nez. »«
À vue de nez ?» s'écria madame Birotteau.
« Monsieur, je vous en prie, ne commencez rien sans un devis et des marchés signés. Je connais les façons de messieurs les entrepreneurs. 6 000 veut dire 20 000. Nous ne sommes pas en position de faire des folies. Je vous en prie, monsieur, quoique mon mari soit bien le maître chez lui, laissez-lui le temps de réfléchir.
Madame, monsieur l'adjoint m'a dit de lui livrer les lieux dans 20 jours, et si nous tardons, vous seriez exposée à entamer la dépense sans obtenir le résultat. »
« Il y a dépenses et dépenses, » dit la belle parfumeuse.
« Eh, madame, croyez-vous qu'il soit bien glorieux pour un architecte qui veut élever des monuments, de décorer un appartement ? Je ne descends à ce détail que pour obliger monsieur de la Billardière, et si je vous effraie... »
Il fit un mouvement de retraite.
« Bien, bien, monsieur, » dit Constance, en rentrant dans sa chambre où elle se jeta la tête sur l'épaule de Césarine.
« Ah, ma fille, ton père se ruine. Il a pris un architecte qui a des moustaches, une royale, et qui parle de construire des monuments. Il va jeter la maison par les fenêtres pour nous bâtir un Louvre. César n'est jamais en retard pour une folie. Il m'a parlé de son projet cette nuit. Il l'exécute ce matin. »«
Bah, maman, laisse faire à papa. Le bon Dieu l'a toujours protégé, » dit Césarine en embrassant sa mère, et se mettant au piano pour montrer à l'architecte que la fille d'un parfumeur n'était pas étrangère aux beaux-arts.
Quand l'architecte entra dans la chambre à coucher, il fut surpris de la beauté de Césarine et resta presque interdit. Sorti de sa chambrette en déshabillé du matin, Césarine, fraîche et rose comme une jeune fille est rose et fraîche à 18 ans, blonde et mince, les yeux bleus, offrait au regard de l'artiste cette élasticité si rare à Paris qui fait rebondir les chairs les plus délicates et nuance d'une couleur adorée par les peintres le bleu des veines dont le réseau palpite dans l'éclair du teint. Quoique vivant dans la lymphatique atmosphère d'une boutique parisienne où l'air se renouvelle difficilement, où le soleil pénètre peu, ses mœurs lui donnaient les bénéfices de la vie en plein air d'une transtévérine de Rome. D'abondants cheveux, plantés comme ceux de son père et relevés de manière à laisser voir un cou bien attaché, ruisselaient en boucles soignées comme les soignent toutes les demoiselles de magasin à qui le désir d'être remarqué a inspiré les minuties les plus anglaises en fait de toilette. La beauté de Césarine n'était ni la beauté d'une lady, ni celle des duchesses françaises, mais la ronde et rousse beauté des Flamandes de Rubens. Elle avait le nez retroussé de son père, mais rendu spirituel par la finesse du modelé, semblable à celui des nez essentiellement français, si bien réussi chez l'argilière. Sa peau, comme une étoffe pleine et forte, annonçait la vitalité d'une vierge. Elle avait le beau front de sa mère, mais éclairci par la sérénité d'une fille sans souci. Ses yeux bleus, noyée dans un riche fluide, exprimait la grâce tendre d'une blonde heureuse. Si le bonheur ôtait à sa tête cette poésie que les peintres veulent absolument donner à leurs compositions, en les faisant un peu trop pensives, la vague mélancolie physique dont sont atteintes les jeunes filles qui n'ont jamais quitté l'aile maternelle lui imprimait alors une sorte d'idéal. Malgré la finesse de ses formes, elle était fortement constituée. Ses pieds accusaient l'origine paysanne de son père, car elle péchait par un défaut de race, et peut-être aussi par la rougeur de ses mains, signature d'une vie purement bourgeoise. Elle devait arriver tôt ou tard à l'embonpoint. En voyant venir quelques jeunes femmes élégantes, elle avait fini par attraper le sentiment de la toilette, quelques airs de tête, une manière de parler, de se mouvoir, qui jouait la femme comme il faut, et tournait la cervelle à tous les jeunes gens, aux commis, auxquels elle paraissait très distinguée. Popinot s'était juré de ne jamais avoir d'autre femme que Césarine. Cette blonde fluide, qu'un regard semblait traverser, prête à fondre en pleurs pour un mot de reproche, pouvait seule lui rendre le sentiment de la supériorité masculine. Cette charmante fille inspirait l'amour sans laisser le temps d'examiner si elle avait assez d'esprit pour le rendre durable. Mais à quoi bon ce qu'on nomme à Paris l'esprit ? Dans une classe où l'élément principal du bonheur est le bon sens et la vertu. Au moral,
Césarine était sa mère, un peu perfectionnée par les superfluités de l'éducation. Elle aimait la musique, dessinait au crayon noir la Vierge à la chaise, lisait les œuvres de Mesdames Cottin, Éric Aubony, Bernardin de Saint-Pierre, Fénelon, Racine. Elle ne paraissait jamais auprès de sa mère dans le comptoir que quelques moments avant de se mettre à table ou pour la remplacer en de rares occasions. Son père et sa mère, comme tous ces parvenus empressés de cultiver l'ingratitude de leurs enfants en les mettant au-dessus d'eux, se plaisaient à défier Césarine qui, heureusement, avait les vertus de la bourgeoisie et n'abusait pas de leur faiblesse. Madame Birotteau suivait l'architecte d'un air inquiet et solliciteur, en regardant avec terreur et montrant à sa fille les mouvements bizarres du maître, la canne des architectes et des entrepreneurs, avec laquelle Grindot prenait ses mesures. Elle trouvait à ses coups de baguette un air conjurateur de fort mauvais augure. Elle aurait voulu les murs moins hauts, les pièces moins grandes, et n'osait questionner le jeune homme sur les effets de cette sorcellerie. « Soyez tranquille, madame, » dit l'artiste en souriant, « je n'emporterai rien. » Césarine ne put s'empêcher de rire. « Monsieur, » dit Constance d'une voix suppliante, en ne remarquant même pas le quiproquo de l'architecte, « allez à l'économie, et plus tard, nous pourrons vous récompenser. »